Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous savoir à bord du cargo de Radio Caroline qui, après avoir traversé la mer du Nord, est en passe d'accoster à Copenhague. Et pour cause, un titre paru en avril 2024 dans les pages du journal Le Monde avait attiré mon attention, m'avait intrigué, je le cite. À Copenhague, au cœur du quartier de Christiania, les dealers de Pusher Street sont poussés vers la sortie. Là, des affrontements entre bandes pour le contrôle du marché de la drogue, les habitants de l'enclave libertaire de Christiania ont rendu impraticable la voie pavée où les vendeurs avaient pignon sur rue. Alors, avant d'en venir à l'un des derniers et très nombreux soubresauts qui ont agité Christiania au cours des décennies, plongeons-nous dans l'histoire étonnante et vraiment hors norme à tout point de vue de cet îlot d'une trentaine d'hectares situé au cœur de la capitale danoise et qui réclama son statut de cité autonome et autogérée dès 1971. En 1971, dans le contexte des mouvements de contestation sociale de la jeunesse aux États-Unis comme en Europe, de l'émergence de la culture hippie et de la crise du logement dans la capitale danoise, un groupe de jeunes hippies, justement, s'installe dans l'ancienne caserne militaire de Christianshavn, tout près du centre de Copenhague, à quelques centaines de mètres du Parlement danois et du Palais Royal. Et le 26 septembre 71, Jacob Ludvigsen, un journaliste connu des mouvements contre-culturels danois, annonce que la cité interdite des militaires, c'est comme ça qu'il l'appelle, est ouverte à la colonisation avant qu'il ne rédige une charte qui proclame « L'objectif de Christiania est de créer une société autogérée dans laquelle chacun des individus se considère responsable du bien-être de la communauté entière. Notre société, dit-il encore, doit être économiquement autonome et nous ne devons jamais dévier de notre conviction que la misère physique et psychologique peuvent être évitées. » Pas de propriété privée, l'autogestion et la démocratie directe, bref, pour ces jeunes pleins d'idéaux, la cité idéale. Rapidement, plusieurs centaines de personnes affluent dans le quartier, dans cette commune libre, autodéclarée, pour s'installer dans les anciennes casernes ou camper sur les remparts. Ils sont 300 début 1972 et bientôt 500, des jeunes au profil très varié qu'énumérera bien plus tard dans un livre l'un de ses primo-arrivants. Des bouddhistes zen, des taoïstes, des marxistes, des adeptes du retour à la nature avec chèvres et cochons, des acteurs du théâtre underground, des anarchistes, des artistes, des poètes, des peintres, des musiciens, des réalisateurs, des artisans, des enseignants, des provinciaux, des étrangers, des drogués, des dealers, des criminels, des fugitifs, des guérisseurs, des alcooliques et des yogis. Le statut de ville libre qu'il réclame, après avoir investi ses hectares de terrain et entamé petit à petit la rénovation des 170 bâtiments abandonnés par l'armée, ne s'obtiendra pas sans mal, ni sans un long combat contre les autorités danoises, combat fait d'avancées et de déconvenues, de flux et de reflux. Après avoir tenté en vain de faire évacuer les squatteurs par la police, le gouvernement social-démocrate trouve en mai 1972 une issue politique en reconnaissant l'occupation illégale du domaine et en accordant en mai 1973 à Christiania un statut d'expérience sociale. Un accord qui, après les élections suivantes, valsera en éclats, les squatteurs doivent dégager. Mais les christianites, comme ils s'appellent, n'entendent pas se laisser faire et organisent une série d'actions spectaculaires mises en scène, notamment par la troupe de théâtre Solvognen, le Char du Soleil, dans Christiania même, mais aussi, surtout, dans d'autres quartiers centraux de Copenhague. Une fausse armée de l'OTAN envahira les points stratégiques de la ville pendant le sommet de l'Organisation internationale de 1973, avant qu'une armée de Père Noël n'investisse les grands magasins de la ville pour s'emparer de marchandises et les offrir en cadeau à la population, ce dont beaucoup, en tout cas de ces générations-là, se souviennent encore. Autant de manifestations, de happenings qui attirent l'attention des Danois sur la commune libre et suscitent chez beaucoup, pas chez tous, mais chez pas mal, de la sympathie. Et en 1976, après la mobilisation de 20 000 sympathisants devant l'hôtel de ville de Copenhague, le gouvernement renonce provisoirement à évacuer Christiania, devenue un symbole de la contre-culture, le Parlement la déclarant commune libre et autogérée. En réalité, son existence restera régulièrement menacée, mais en attendant, fort de ce soutien populaire et même officiel, les christianites peuvent chanter « Vous ne pouvez pas nous tuer, car nous faisons partie de vous ». En mars 1979, une équipe du magazine d'information à suivre de la RTBF, menée par André François, se rend au Danemark et en ramène un reportage d'une heure et demie diffusé le vendredi soir en prime time, intitulé « Danemark, un vent frais sur la vieille Europe ». Une immersion tous azimuts, mais qui passe évidemment par Christiania.
Au Danemark, il y a toujours un filet pour retenir le citoyen dans sa chute, disait quelqu'un. Voici l'ultime filet, la commune libre de Christiania. C'est en tout cas ce que prétendent ceux qui disent qu'arrivé ici, on ne peut pas tomber plus bas. Cette zone, grande comme 40 terrains de football et située en plein centre de Copenhague, est un terrain qui appartient à l'armée danoise. Mais au printemps 1971, les militaires qui l'occupaient jusqu'à là abandonnent leur vieille caserne pour immigrer à l'extérieur de la ville. Pendant 6 mois, rien ne se passe, la ville hésite sur l'utilisation de l'emplacement, puis soudain à l'automne, un groupe de personnes commence à occuper une partie des bâtiments. C'est le début de la commune libre de Christiania qui va devenir une expérience unique en Europe. Des gens de tout âge, de toute provenance vont se mettre à reconstruire ici une véritable ville dans la ville. Mais surtout, ils vont essayer de vivre autrement. Transformer la jungle de nos sociétés occidentales où triomphe l'argent, supprimer les injustices, le gaspillage, le travail à la chaîne, la pollution, la pauvreté, bâtir un univers où les gens seraient solidaires les uns des autres au lieu de s'ignorer, c'est un espoir que partagent beaucoup de gens à travers le monde. Mais à Christiania, on va dépasser le stade des vœux pieux et des discours de salon. Et pourtant, ce ne fut pas simple, car dès le début, le gouvernement danois a cherché à récupérer cet emplacement. Et si 800 personnes vivent aujourd'hui à Christiania, c'est qu'elles se sont battues pour cela, inlassablement. C'est aussi que pour l'instant, au Danemark, les sociaux-démocrates, relativement tolérants pour l'expérience Christiania, l'emportent sur les conservateurs. Mais il faut dire aussi que l'existence même de Christiania arrange, en définitive, assez bien les pouvoirs publics, incapables de se charger du sort d'une série de marginaux, alcooliques, drogués, délinquants, qui trouvent par contre, chez ceux qui ont bâti Christiania, accueil et compréhension.
La plupart des gens qui sont ici à Christiania sont des gens dont certains ont même un niveau d'éducation élevé, qui ont décidé de quitter l'autre société parce qu'elle n'offrait pas un sens à leur vie. C'est une vaste question.
Et vous-même, vous êtes ici depuis longtemps, à Christiania ?
Je suis ici depuis fin 1975.
3 ans.
Je travaille ici.
Qu'est-ce que vous faisiez avant de venir à Christiania ?
J'étais docteur en médecine.
Vous voulez dire que vous aviez un diplôme de docteur en médecine ?
Oui, certainement.
Pourquoi êtes-vous venu ici ?
Parce que j'ai compris très clairement que le reste de ma vie allait se passer à essayer d'aider des gens atteints de maladies tout à fait bénignes. À soigner des gens qui avaient des boutons sur le cul. Le métier de médecin dans notre société aujourd'hui, c'est un peu comme les prêtres de l'ancien temps. Les gens vous consultent parce qu'en fait, ils n'ont pas de véritable ami.
You have to do a
Ce qu'ils attendent de vous, c'est surtout que vous leur parliez. Mais pendant que vous leur parlez, vous devez avoir un œil sur la montre parce que d'autres font la queue dehors. Et ça, c'est pas possible. Je commence à comprendre un peu le comportement des gens. Pourquoi ils sont de plus en plus violents, pourquoi ils se droguent, et pourquoi ils battent leurs femmes. Je me rends compte que c'est la conséquence inévitable de toute cette tension que provoque notre société hautement industrialisée.
The total amount of strain being thrown on people as a consequence of living in a highly industrialized society.
Si Christiania a pu attirer en dehors de sa communauté une certaine bienveillance de la part d'une partie de la population, elle a aussi ses détracteurs à l'époque, comme cette famille que l'on retrouve dans ce reportage en 1979.
Christiania, pour moi, c'est de la merde. On entend tout le temps parler de problèmes, de hashish, de vol, de criminalité, d'alcool. C'est des gens qui sont contre la société. Ils ne veulent pas payer d'impôts. Ils ne veulent rien payer de tout ce que nous, on est obligés de payer.
Eli Hansen est manœuvre dans le bâtiment. Il vit avec sa femme et ses deux enfants dans une cité ouvrière de la banlieue de Copenhague. Jamais jusqu'à là, les Hansen ne sont allés visiter Christiania. Au début de l'année 76, le gouvernement danois parle de fermer définitivement Christiania. C'est alors que la télévision danoise entreprend une expérience étonnante, faire vivre pendant une semaine la famille Hansen à Christiania.
Je crois qu'à Christiania, il fait très sale. Chaque soir, on va devoir changer de vêtements. J'ai lu que c'était plein de puces, de poux, qu'il y avait des rats partout. Je pense qu'on ferait mieux de détruire Christiania.
Quand on est arrivé à Christiania, on a vu un type qui s'appelle Torkil. Il avait une barbe. Il m'a fait penser à l'homme sauvage qu'on voit sur les cuissons du Danemark. Mais Torkil est sûrement un peu plus sage. Alors il nous a conduits dans le groupe où on va vivre. Quand il a sonné, toute une flopée de gens sont sortis de la maison. C'est incroyable, il en sortait de partout.
La semaine de la famille Hansen à Christiania s'achève. Morten, le fils, a juste le temps de s'offrir un dernier tour à cheval avant de boucler la valise. Quelques jours plus tard, la télévision se rend chez les Hansen. Ceux-là même qui, il y a deux semaines, disaient de Christiania que ce n'était qu'un repère de drogués qu'il fallait fermer au plus tôt. Le journaliste demande au père Hansen s'il est toujours du même avis.
J'ai vu des choses qui sont vraiment dégueulasses. La drogue. Tout ça, je ne suis pas sûr que c'est seulement Christiania qui est dégueulasse. Il y a des gens à Christiania qui vraiment viennent en aide à ceux qui n'en sortent plus, qui s'en occupent. Je trouve que ces gens-là, on devrait vraiment leur donner une chance pour pouvoir continuer. Je trouve qu'on devrait les aider de l'extérieur, aider les gens de Christiania qui se dévouent pour les autres.
Med baggrund i, at der var en hjælp til selvhjælp udefra, så de havde en virkelig baggrund for at hjælpe de mennesker inden på Christiania, de skulle have en chance til.
Mon idée, c'est que les drogués, ils sont venus de l'extérieur. Ce n'est pas à Christiania qu'ils ont commencé.
Est-ce qu'il faut fermer Christiania?
Non. J'ai rencontré tellement de gens qui s'entraident, qui travaillent ensemble, qui s'occupent ensemble des enfants. Maintenant, je sais bien que si je tombais malade, si je disparaissais du système, si je ne pouvais plus suivre la course de la société, les gens de Christiania pourraient m'aider mieux que si j'allais à l'hôpital.
Christiania still exists and...
Christiania existe toujours, solidement attaché à l'idée de départ, c'est-à-dire trouver une autre façon de vivre ensemble. La chose la plus importante, c'est que les gens de Christiania veulent par-dessus tout vivre une vie qui a un sens, en accomplissant un travail qui a un sens. Et avec de vraies relations humaines entre les gens.
Et vous pensez que la société en dehors de Christiania ne le permet pas?
J'en suis tout à fait persuadé. Je l'ai ressenti moi-même et j'en ai parlé avec des centaines de gens de l'extérieur qui viennent ici nous rendre visite. Je suis convaincu qu'on aura toujours besoin d'un Christiania quelque part. Mais simplement, j'ignore si ça sera ici ou ailleurs.
I don't know whether that will be in on this location. Of course, I don't know. I can't see in the future. Very few people can do that.
C'était donc un extrait de cette émission à suivre de ce reportage signé André François.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Au cours des années 80 arrive la deuxième génération de citoyens de Christiania, davantage punk que hippie, des squatteurs qui, à plusieurs reprises, affronteront parfois violemment la police, mais également les gangs qui tentent de récupérer le très rentable commerce de cannabis sur Pusher Street, ainsi surnommée donc cette rue, rue des dealers. En 1989, moment important, le Parlement danois, à majorité social-démocrate, vote le Christiania Act qui légalise le squat et ouvre officiellement la voie au droit pour ses habitants d'occuper collectivement le domaine. En contrepartie, cette commune autonome devra bientôt consentir à payer son eau et son électricité, à régler des licences pour ses bars et à soumettre ses commerces aux taxes. Christiania profitera en outre, après cette nouvelle officialisation, de l'attitude bienveillante de l'État qui va entreprendre certaines rénovations, établir un plan vert d'urbanisation et aménager un nouveau jardin d'enfants ainsi qu'une piste de skateboard. La commune autonome entre donc, non sans heurts ni sans divergences d'ailleurs, dans un processus de normalisation. Ce qui, je le sous-entendais, n'est pas du goût de certains qui critiquent l'embourgeoisement des hippies. Durant cette période, la cité, qui n'a jamais été repliée sur elle-même, mais restait toujours ouverte à tous, devient l'une des principales attractions touristiques de la capitale. Les bus touristiques y passent avec, chez ses habitants, deux types de réactions. Le sentiment parfois de faire partie d'un zoo humain, mais aussi l'idée que c'est finalement une manière de montrer qu'il existe d'autres façons de vivre. Comme s'en fait l'écho un reportage diffusé à la télévision française en 1997 où l'on rencontre un hippie bien arrimé à ses principes et une habitante d'origine française qui s'est ouverte à plus de confort.
C'est au programme des guides de Copenhague. Après la petite sirène et le quartier chaud, il y a Christiania. Ici, les touristes viennent voir les derniers dinosaures d'une époque révolue, celle des années 70. L'époque des hippies, de la révolution des fleurs, de l'occupation d'une caserne par Léonard et sa bande. À 73 ans, Léonard le peintre y est toujours. Il est coté, mais il n'a pas changé. Ceux dont personne ne veut sont les bienvenus chez lui.
On était des hippies, juste des hippies. Nous avions peace and love dans le cœur comme tous les hippies. Christiania, pour moi, c'est un peu comme un cirque.
Au gouvernement, on dit expérience sociale. Léonard est branché sur Internet pour faire connaître la communauté à travers sa peinture. Léonard s'adapte, mais n'a pas changé. En 25 ans, sa maison, toujours un abri de jardin ouvert à tous, identique à l'idéal de 71.
La paix, la fin des conflits, c'est ce qu'on voulait obtenir. C'est pour ça que nous sommes battus pendant 25 ans. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent nous supprimer.
Supprimer ces hippies qui voulaient casser les classes sociales et qui refusaient l'embourgeoisement. 25 ans après, le goût du confort bourgeois en a séduit certains. Christiane vit dans la partie huppée de Christiania.
Là, pour l'instant, c'est le salon parce qu'on a fait des... On a fait des travaux. La cuisine, normalement, se trouve là, qu'on doit refaire bientôt. Et normalement, la salle à manger se trouve ici, mais pour l'instant, c'est le salon.
Vivre ici est devenu un privilège. Tous les squats ne sont pas aussi luxueux.
C'est plus comme quand on avait une vingtaine d'années, qu'on était complètement libre, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Maintenant, on a la responsabilité de famille, ce qui est important quand même.
Vous êtes une vieille baba ?
Vieille baba ? Peut-être, je sais pas. Peut-être un peu freak, peut-être un peu baba. C'est possible.
On ne se refait pas. Ici, on parle de médecine alternative, un exercice pas toujours évident.
À Christiania, très difficile. Mais bon, intéressant d'une certaine façon. Mais...
Pourquoi c'est très difficile ?
Parce qu'il y a beaucoup de cas sociaux ici à Christiania.
Des cas sociaux qui composent avec leur temps. Exemple, la musique. Il y a quand même des valeurs auxquelles ils n'ont pas renoncé, comme la légalisation du haschich.
Normalement, nous fixons des règles. Vous devez faire des choses comme ça et comme ça, mais à Christiania, on n'accepte aucune règle.
Ils sont 1000 à vivre à Christiania. Et si tout autour d'eux, le monde a changé, ici le temps s'est arrêté il y a 25 ans.
Quelques mois plus tard, dans un autre reportage diffusé toujours à la télévision, on retrouve ce même Léonard, histoire d'en savoir un peu plus sur lui.
À 75 ans, Léonard Olchenski est le doyen et un citoyen type de la communauté. Sa journée commence par un petit déjeuner prolongé entre christianites au café Woodstock. Il y a 26 ans, Léonard était typographe dans un journal danois. À l'époque, il gagnait bien sa vie, menait une existence routinière et buvait trop de bière. Du jour au lendemain, il décida de changer radicalement sa vie, poursuivre sa motivation profonde et devenir artiste peintre.
J'ai arrêté de boire de l'alcool et j'ai commencé à fumer du hash. Quelque chose s'est passé dans ma tête. Je suis devenu un hippie. Et j'ai démissionné de mon job. À cette époque, on s'embrassait, on se serrait les coudes, on s'entraidait. Notre système social était simple. On travaillait ensemble et on travaillait pour rien. Vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Mais à condition de ne pas gêner, de respecter les autres. Parce que ici, nous avons des lois, beaucoup de lois, mais des lois orales, pas de lois écrites.
Les lois des christianites sont les suivantes. Légalisation du cannabis, interdiction de rouler en voiture, respect de la justice et de l'économie interne de Christiania. Pour fonctionner en tant que ville, ils instaurent une taxe d'habitation d'environ 900 francs par mois et par adulte qui sert à payer l'eau, l'électricité, le ramassage des ordures et le nettoyage des rues.
Par parenthèse, 900 francs français de l'époque, entend-on, ce qui équivaut aujourd'hui à un peu plus de 200 euros. Léonard parle de haschich et de fait, on l'a dit, dans une dizaine de stands de la fameuse Push Street de Christiania, on peut se procurer des drogues douces librement et notamment du cannabis sous toutes ses formes. Alors que sa vente et sa consommation sont interdits dans le reste de la capitale et du pays. En revanche, les drogues dures, comme cela dit les armes à feu, sont proscrites par la communauté. Et pourtant, à plusieurs reprises au cours de son existence, et dès la fin des années 70 d'ailleurs, on parlera de Christiania comme d'une plaque tournante de l'héroïne et d'un repère pour les junkies. Mais à chaque fois, face à la police prête à intervenir, ses habitants feront front pour faire eux-mêmes le grand nettoyage. Dans un article du journal Libération, paru en 2000, titré « À Christiania, les babas coulent », et qui déjà prédit la fin de cette commune libre, annoncée dans la presse quasiment tous les 3 ou 4 ans, on peut lire « Si t'as pas de hache, pas de sexe, braille la vieille Groenlandaise, à peine réveillée par les caresses plus qu'intimes que lui prodigue depuis 10 bonnes minutes son voisin de table. Sa sentence prononcée, elle replonge dans le coma sans lâcher la bière presque vide qu'elle tient à la main. Sous le regard moqueur d'une Mona Lisa trônant, pétard à la bouche au-dessus du comptoir, l'amant putatif et conduit quitte piteusement les lieux. Au Woodstock Café, où échoue dans un décor de saloon esquimau en rupture de banquise, nostalgique des années 70 et badaud en tout genre, la scène paraît banale, poursuit Libération. C'est que dans cet embryon de société alternative, le Woodstock Café fait désormais figure d'exception. Car, bien que des kilos de hache et d'herbe s'y fument quotidiennement en toute impunité, à bientôt 30 ans, Christiania, la sulfureuse, est entrée dans l'âge de raison. Et la journaliste d'expliquer que, toujours propriétaire des lieux, le ministère de la Défense entretient, à l'époque, de cordiales relations avec les habitants, depuis que ces derniers, on l'a dit, ont accepté de payer eau, électricité et taxes foncières. Ils ne payent jamais en retard, ce sont des citoyens modèles, précise un membre du secrétariat créé par le ministère pour organiser les relations avec la commune libre et autogérée. Ajoutant, c'est une bonne chose pour Copenhague que ce Christiania, beaucoup d'alcooliques et de malades mentaux dont la ville ne pourrait pas s'occuper, ils sont très bien pris en charge. Passé Pusher Street, entouré d'anciens baraquements dont les hautes façades grises sont en partie recouvertes de fresques bigarrées, Christiania dévoile ses véritables charmes, lis-je encore dans ce dossier datant de 2000. Sur les deux rives d'un canal débouchant sur la mer, de confortables demeures ont poussé au milieu de petits ateliers de l'armée entièrement rénovés. En pleine zone urbaine, chevaux et chiens se baladent en toute tranquillité dans ce que les christianites sont unanimes à décrire comme un paradis pour les enfants. L'ensemble de la communauté est assez fier du travail accompli en 30 ans. Certains sont même devenus orfèvres en leur spécialité, comme ces ferronniers improvisés qui, faute de chauffage, ont décidé un jour de retaper de vieux poils et en vendent aujourd'hui dans le monde entier. Eric, français émigré, travaille lui au nettoyage du parc. À Paris, il était chauffeur de limousine, alors philosophe-t-il, « J'ai pas vraiment changé de travail, je trimballe toujours des ordures, mais maintenant je le fais en tracteur ». Un esprit collectif tout de même battu en brèche par le développement insidieux de l'individualisme. Les logements collectifs se font rares et chacun est de plus en plus attaché à son pré carré. Au fil des ans et après le passage au XXIe siècle, Christiania se mura, je cite, « en une respectable micro-société alternative où un millier d'habitants tentent d'y entretenir une flamme communautaire un peu vacillante ». Il y a une vingtaine d'années, une observatrice notait dans ce même reportage du journal Libération que je citais à l'instant, le principal risque pour Christiania vient de la communauté elle-même. Le fait d'avoir des ennuis communs soudait le groupe, mais aujourd'hui, les christianites sont très divisés. Et c'est vrai que le rejet de l'État, de même que l'aspiration à une société libertaire, ont longtemps constitué, comment dire, un socle commun. De même d'ailleurs que ces batailles gagnées ensemble, on l'évoquait, pour éradiquer les drogues dures. Ce furent les moments les plus intenses, se souvient Henrik, artiste peintre de 45 ans. Tout le monde y a mis du sien pour expulser les dealers et les junkies. Cela dit, une autre habitante présente depuis la création de la cité nuançait à l'époque « Nous n'avons jamais été un groupe soudé partageant les mêmes objectifs en réalité. Parmi les créateurs, il y avait aussi bien des artistes que des hippies ou des squatteurs professionnels. » Une autre ajoutant « En fait, même si certains d'entre nous continuent à s'accrocher à nos vieux idéaux, Christiania est comme le reste du monde, l'époque est individualiste, nous le sommes aussi. » Quant aux enfants nés à Christiania dans les années 70, la plupart ont quitté la cité progressivement. Nous sommes nombreux à vouloir rejoindre l'élite de la société et nos parents nous encouragent franchement dans cette voie, confie à l'époque l'un d'eux qui a quitté la communauté à la fin des années 90. Nous ne souhaitons pas plus que rééditer cette expérience, même s'il a été nécessaire. Comme une parenthèse qui se referme pour des christianites eux-mêmes majoritairement issus de la bourgeoisie danoise. Conclut-on. En 2001, le parti de centre-droit remporte les élections législatives et son leader, Anders Fogh Rasmussen, devient Premier ministre avec l'appui des nationalistes du Parti populaire. Une droite qui entend bien faire de la normalisation de Christiania l'un des symboles de sa politique pour le pays, la démolition de certaines habitations commençant dès 2006. Quelques années plus tard, en juin 2011, la commune libre de Christiana et les autorités danoises concluront un accord permettant aux habitants de racheter à l'État une partie des habitations. Et en juin 2013, le Parlement danois adopte une loi révoquant le statut spécial de Christiania, mettant fin à une expérience sociale et politique de plus de 40 ans. Ce qui n'empêchera pas les habitants de prendre leur sort en main en certaines circonstances, et notamment quand le danger se présente. Ainsi, en avril 2024, on le disait en commençant, on pouvait voir et entendre à la télévision publique danoise ceci.
Welcome to at the local push street.
Så sker det sgu. Den første brosten er blevet rykket op fra Pusher Street.
Vi har aldrig haft en fællesmødebeslutning om, at vi vil gerne af med kriminelle hashmarked på Christiania.
Ce qui, sur Euronews, donnera cela.
Au Danemark, le célèbre quartier hippie de Christiania veut tourner la page sur les trafics de drogue qui gangrènent cette enclave libertaire depuis des années. Samedi, les habitants, aidés par la police, ont procédé au démantèlement de la Pusher Street, une artère où les dealers vendaient leurs drogues aux habitants et aux touristes.
Ça se passait le 6 avril 2024 dans une ambiance bon enfant, sous un ciel bleu et ensoleillé, les habitants de Christiania décelant littéralement les pavés de Pusher Street. Bien que l'initiative émane de la communauté, la maire de Copenhague et le ministre de la Justice étaient venus prendre le petit déjeuner avec les habitants, chacun repartant avec son pavé symbolique. À plusieurs reprises, depuis sa création en 1971, la communauté de Christiania était parvenue, on l'a vu, à éjecter dealers et consommateurs de drogue dure de sa zone. Mais à la fin, elle ne pourra plus rien contre l'envahissement des trafiquants, Pusher Street devenant le centre névralgique du trafic de drogue au Danemark, en même temps que le lieu d'affrontement entre bandes rivales. Les différends qui commencent ici ont tendance à s'étendre au reste de Copenhague, tandis que les conflits qui émergent ailleurs se résolvent souvent dans la violence à Christiania, expliquera le numéro 2 de la police de Copenhague. Et d'ajouter, dans ces combats contre les dealers, certains collègues ont reçu des pierres, d'autres des balles. Ces trois dernières années, 3 personnes ont été tuées à Christiania, raison pour laquelle les christianites ont décidé de détruire une bonne fois pour toutes l'allée longue d'une centaine de mètres et d'expulser les pushers, les dealers en anglais, en supprimant leurs stands fabriqués avec de la tôle et des palettes de bois, l'une des attractions touristiques du quartier. À l'instar de Klaus Danzer, un menuisier de 59 ans d'origine allemande, habitant le quartier depuis une trentaine d'années et qui, en 2021, après l'exécution d'un jeune de 22 ans sur Pusher Street, probablement tué par erreur, est devenu le visage du mouvement Knock Air Knock, trop c'est trop. En octobre 2022, c'est un homme de 23 ans qui est abattu de 2 balles dans la tête. Puis, le 26 août 2023, c'est carrément une fusillade qui éclate vers 19h30 alors que le quartier est rempli de monde. Un homme en lien avec les gangs est tué et 4 passants sont blessés, dont 2 touristes étrangers. Le lendemain, les habitants se réunissent à Den Graal, une salle de concert où se sont produits Bob Dylan, Patti Smith ou encore Metallica, et décident de fermer Pusher Street. Parmi la population de ce qui demeure une enclave et qui compte encore 770 adultes et 220 enfants, beaucoup espèrent que la fermeture de Pusher Street aura pour effet de relancer le débat sur la légalisation du cannabis au Danemark. La seule solution pour se débarrasser de la criminalité, avance-t-il. En attendant, le gouvernement a promis d'investir 14 millions de couronnes, près de 2 millions d'euros, dans la rénovation du quartier et de construire 15 000 mètres carrés de logements à loyer modéré. Une ultime étape, sans doute, vers la normalisation de Christiania, dont les habitants se sont si longtemps opposés à l'intervention de l'État. Et bien voilà, notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le faire savoir, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.